Bonjour à tous.
Il fait bien chaud ici. Hein. Tu as chauffé, Sigère. Bien, je vais projeter une première diapositive et surtout vous lire un passage que j'ai eu à cœur ces derniers temps de regarder de beaucoup plus près. Et chaque fois qu'on se penche un peu en profondeur sur un passage, on en retire pour soi-même beaucoup de choses. Alors, si vous voulez bien, je vais remettre ce moment de méditation entre nous, entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous sommes maintenant penchés sur tes paroles, sur tes propres mots, et ne nous voulons pas nous tromper, Seigneur, dans ce que tu veux nous dire. Merci parce que tu disposes de nos cœurs et tu ouvres notre intelligence. Et nous savons que tu es au milieu de nous, auditeur silencieux. Amen. Je lis un passage donc que j'évoquais, c'est peut-être le micro peut-être juste un petit peu fort. Non, c'est ma guitare ?
D'accord.
Voilà, ça devrait aller mieux. Je lis donc ce passage de Luc 22 à 34. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est assis à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Vous êtes resté fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, vous boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Luc situe cette discussion entre les disciples. Qui est le plus grand ? Qui doit être reconnu comme tel parmi nous ? Au moment particulier de la célébration de la fête de la Pâque, juste avant l'arrestation de Jésus. Et c'est un peu comme si déjà une guerre de succession était déclarée entre les disciples au moment où ils prennent conscience que la fin de Jésus est proche. Alors il les a préparés progressivement, hein. Il leur a annoncé le dénouement proche de ces années passées ensemble sur les routes. Et où va leur énergie dans ce moment précis ? À la préparation de la distribution des rôles et des places. À la recherche d'une hiérarchie qui permette, une fois que Jésus ne sera plus là, de sauver une organisation, de sauver une aventure qui tourne, qui fonctionne. Et on est dans le registre classique de la recherche du leadership, d'un ordre qui puisse mettre bien à leur place respective les décideurs et les autres. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous allons nous payer le luxe de juger avec condescendance ces hommes qui sont en train de se disputer le bout de gras ? Est-ce que notre environnement social, politique, professionnel, culturel, sportif n'est pas marqué par cette recherche constante du qui est le premier ? Qui est le meilleur? Qui mérite? Qui va-t-on pouvoir installer sur un piédestal? Et est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes embarqués dans cette recherche constante de la distribution des prix et des couronnes? Mais Jésus casse le mythe. Jésus inverse totalement les valeurs en expliquant aux disciples qu'ils ont en fait épousé comme un seul homme une vision qui fait le jeu des dominants. C'est ce qu'il dit. La réalité, leur dit-il, c'est que cette question de qui est le plus grand, elle est en relation directe avec l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Regardez-vous et regardez comment ça fonctionne autour de vous. Ceux qui détiennent les positions dominantes n'en font pas un bon usage. Ils dominent. Et je ne fais que lire le texte. Les rois des nations dominent sur leur peuple. Certaines traductions disent « tyrannisent ». Et ceux qui exercent leur autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Et la position de pouvoir ou d'autorité comporte un risque toujours pour ceux qui la détiennent d'en abuser, soit en dominant sur le peuple, soit en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des bienfaiteurs. Et on peut voir de l'ironie dans le terme de bienfaiteur dans la bouche de Jésus, puisque en fait la pratique dans la société romaine de ce temps-là était très courante de soutenir des projets, de faire preuve de générosité financière et de le faire savoir surtout, quand on était riche bien sûr, qu'on pouvait le faire. Une inscription, un monument, venait rappeler que tel ou tel avait financé ceci ou cela, et on se bâtissait une réputation de bienfaiteur, parce que ça pouvait toujours être utile dans une carrière politique et dans la société romaine. Mais aujourd'hui, on connaît ça encore. Le mécénat, dont on parle souvent, n'est pas toujours désintéressé. Quand il s'agit de se faire une image, ou quelquefois, quand l'image est éternie, de se refaire une image. Et c'est ce fonctionnement que Jésus dénonce, en avertissant ses disciples de ne pas aller sur ce terrain, même si c'est le contexte des valeurs qui imprègnent leur raisonnement, mais au contraire d'aller à l'inverse. Clairement, il faut que les disciples acquièrent une autre vision, d'autres critères pour leur vie à venir. Et je lis les versets qui suivent. « Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. » Que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et Jésus casse ainsi le mythe de l'ordre des relations humaines, de la domination de l'un sur l'autre, de la répartition entre des rôles moins nobles et des rôles plus nobles. Ce qu'il nous dit tout simplement, c'est que suivre Christ, c'est apprendre à servir. Alors vous pensez avoir le profil d'un leader, c'est un petit peu ce qu'il leur dit, et uniquement celui-là, ben moi je vous dis, il faut travailler avec la même implication votre profil de serviteur. Et c'est une leçon pour les disciples, ça en est une aussi pour nous, pour moi aussi, et d'ailleurs Jésus ne se prive pas de leur rappeler que c'est justement ce qu'ils viennent de faire. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de les servir à table. Vous pensez que le plus grand, c'est celui qui se fait servir à table? Oui, selon les codes de la société actuelle, oui, vous avez raison, c'est comme ça que ça marche. Moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Et s'en sont-ils simplement rendus compte? Il y a dans cet épisode toute la patiente pédagogie de Jésus qui n'accable pas ses disciples, mais qui leur montre toujours le chemin qui reste à faire. Les jours et les semaines qui s'annoncent vont d'ailleurs leur demander de changer de registre et de devenir serviteurs les uns et les autres. Ils vont devoir changer. Et nous, peut-être aussi. Je note que dans cette approche de Jésus, il n'y a plus d'un côté ceux qui commandent et ceux qui servent, qu'il n'y a pas de plus grand qui aurait tous les droits et de plus jeune qui n'en aurait aucun, et que cet ordre des choses n'est pas établi une fois pour toutes. Et pour savoir ce que vit l'autre, j'ai besoin moi aussi d'expérimenter le service et de me mettre au service. Dans une église, et nous le savons tous, il y a concrètement des tas de choses à faire, des tâches à assumer, des responsabilités à prendre, visibles ou pas, plus ou moins intéressantes. Elles ne sont pas toujours spirituelles, ces tâches, mais elles sont nécessaires à tous. Et si je ne me sens pas concerné, c'est que je considère alors normal d'être servi. Et je perpétue un ordre de domination, tout ce qu'il y a de plus humain, tout ce qu'il y a de plus tragiquement humain. Aux uns les droits, aux autres les devoirs, chacun sa place. Et c'est précisément le contraire que Jésus a lui-même expérimenté. Philippiens nous le rappelle. Ne faites rien par esprit de rivalité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en s'en rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Et celui qui me dit qu'apprendre à servir c'est suprêmement important, il est digne d'être écouté parce qu'il l'a montré lui-même. Pas de position surplombante qui me dit de loin « vas-y, fais ça, fais comme ça », mais la démonstration par l'exemple. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que Jésus élargit la perspective dans ce passage. Et dans la suite des propos que rapporte Luc, il y a néanmoins quelque chose de fondamental pour ceux qui se demandent qui est le plus grand. Je relis les versets 28 à 30. « Vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi mon Père m'a donné le royaume, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Certaines traductions disent « juger », d'autres traductions comme la Bible du Semeur disent « gouverner ». Et le propos de Jésus, c'est là qu'il élargit la perspective, c'est à la fois une vision qui est nouvelle, qui est beaucoup plus vaste, et une prolongation de ce qui vient d'être vécu au cours de ces derniers repas, et de ce qu'il vient de leur démontrer. Ils vont être assis à une autre table, celle d'un Jésus qui cette fois-ci ne les sert pas, mais d'un Jésus régnant, et qui n'est plus poursuivi et persécuté. Et la question de la préséance, du qui est le plus grand, ne se posera plus du tout dans la perspective que donne Jésus, puisque tous ceux qui sont là seront co-héritiers du royaume de Dieu. La question de la préscience ne se posera pas non plus, puisque tous collectivement seront amenés à gouverner les tribus d'Israël. Et on pourrait paraphraser Jésus en disant, s'il s'agit d'être roi comme vous vous en préoccupez aujourd'hui, eh bien en fait vous partagerez le royaume. Vous l'aurez tous en partage, comme il m'a été également donné d'en disposer. Et s'il s'agit d'exercer une responsabilité, ben vous serez tous en situation de le faire. Et c'est en cela que Jésus élargit considérablement la perspective. Alors, pourquoi seront-ils à sa table et en situation de gouverner les 12 tribus d'Israël ? Jésus le dit clairement, parce que vous êtes ceux qui avait persévéré avec moi dans mes épreuves. Pas parce que l'un d'entre vous aurait un rôle ou une place particulière acquise de droit de toute éternité. Et là encore, la pédagogie de Jésus, elle est assez remarquable. Il a déstabilisé ses disciples qui raisonnaient à coup de qui est le plus grand. Et il va les remettre à l'endroit, quelque part, et il va les restaurer. Vous rappelez que dans le psaume 23, « Il restaure mon âme », c'est aussi traduit par « Il me remet sur mes pieds ». C'est la même racine du verbe. Et là, c'est pareil, il les restaure littéralement, il les remet sur leurs pieds. Car le fait d'avoir persévéré dans les épreuves, ça ouvre une toute autre perspective. Ils ont continué à faire confiance à celui qui a tiré les foules, mais qui se heurtait à l'opposition constante autour de lui. Ils ont choisi, c'est un choix difficile, une vie de nomade, alors qu'ils étaient installés dans leur vie, et souvent, ils ont eu du mal, et tous les évangiles en témoignent, à comprendre où Jésus voulait en venir. Mais, ils ont persévéré, même sans tout comprendre. Et ça n'est qu'après qu'ils ont pu recoller les morceaux du puzzle, et qu'ils ont compris le sens des choses de ce qu'ils avaient vécu. Je regarde souvent les évangiles comme une tentative de leurs auteurs de bien se rappeler, surtout ne pas laisser échapper tout ce qu'ils ont vécu d'important et le raconter. Quelquefois, ils le racontent de façon un peu différente, à des endroits différents, mais il y a ce souci de recoller tous les morceaux du puzzle. Qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et ça peut être aussi, cette question de la persévérance, importante pour nous ce matin. Nos vies passent tôt ou tard par des épreuves. Et si nous sommes chrétiens, ces épreuves, elles nous questionnent d'autant plus. On est tous dans la recherche du sens. Quel sens ça a ? Quand elles se répètent et qu'on ne voit pas l'utilité. Évidemment, je ne parle pas là des tracas de la vie quotidienne, hein, de la voiture qui a besoin d'un peu d'huile, du chauffe-eau qui tout d'un coup ne chauffe plus. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je parle, c'est des épreuves qui peuvent questionner ma foi et ébranler ma confiance. Vraiment. Et ce sont les choses qui m'atteignent au plus profond. Quels sens ont ces épreuves ? Moi, j'oserais dire que ces épreuves, elles n'ont pas de sens en elles-mêmes. Et il ne faut pas verser dans un dolorisme qui a existé dans nos milieux chrétiens quelquefois, qui amènerait pratiquement à rechercher les épreuves. Du genre, si je ne rencontre pas assez d'épreuves, c'est que je ne vis pas vraiment ma foi. Attention à cette façon de raisonner. Les épreuves, elles viennent et elles viendront sans que nous ayons à les chercher. Mais par contre, ce qui a du sens, c'est la façon dont on traverse ces épreuves. Que suis-je en train de devenir avec les épreuves ? C'est la vraie question. Et l'apôtre Paul va jusqu'à se déclarer, vous avez le texte sous les yeux, fier de ses détresses, certaines traductions disent se réjouir, sachant que la détresse produit la persévérance, que la persévérance amène à vaincre dans l'épreuve, et que la victoire, finalement, produit l'espérance, nourrit l'espérance. Alors, c'est facile à dire, hein ? On croirait entendre un sportif s'exprimer quand on écoute Paul, hein ? Mais il va plus loin dans cet épître aux Romains. Il dit « Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu », texte qui précède. Et finalement, c'est ce qui suit sous la plume de Paul qui est le plus important. Cette espérance ne trompe pas, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Si je traduis, cette espérance ne trompe pas parce que le Saint-Esprit m'assure que je suis aimé de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit quoi ? Que Dieu m'aime malgré tout, inconditionnellement. Et l'épreuve que je traverse, même si c'est toujours difficile, si je persévère, elle me renforce dans la certitude que Dieu n'a pas cessé un instant de vouloir mon bien, même si la traversée est compliquée. Elle peut l'être, ô combien. L'épreuve, c'est toujours une question, c'est toujours un pourquoi qui fragilise, objectivement, durement parfois. Et pourtant, Jésus nous rappelle quelque chose d'assez fondamental. Personne ne peut s'emparer du troupeau qui a été confié au berger. Il le dit en ces termes, personne ne pourra arracher mes brebis de ma main. Il y a encore autre chose dans ce texte, c'est que, après avoir cassé le mythe de qui est le plus grand, d'avoir élargi la perspective, eh bien Jésus va accompagner. Et on pourrait croire que l'essentiel est fait, qu'on est arrivé au bout du chemin quand il a dit tout ce qu'on vient de voir aux disciples. Et nous savons très bien que ce n'était pas encore le cas, parce qu'ils avaient tellement de choses qu'ils attendaient par la suite que leur chemin était simplement engagé. Et pour autant, ce chemin, ce n'est pas le même pour tout le monde. Chacun accompagne, expérimente son propre chemin. Et c'était le cas particulier de Pierre. Alors lui, il avait besoin d'un accompagnement un peu particulier. Que lui dit Jésus ? Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Ces versets, ils nous rappellent d'abord que notre réalité terrestre ici ce matin dans un lieu construit, une église, un bâtiment, cette réalité terrestre, elle est temporaire, elle est matérielle, mais elle est englobée dans une réalité spirituelle beaucoup plus vaste et dont nous ne percevons pas toute la dimension. Nous sommes au cœur d'un enjeu qui est ni plus ni moins que la contestation de Dieu par une partie de sa création. Sa création visible aujourd'hui, mais aussi la création que nous ne pouvons pas voir. Et comme le rappelle Paul aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste, celui que nous ne percevons pas. Et dès lors, cette contestation de la création, elle s'étend au projet même de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Si du moins nous avons décidé de reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Il faut que nous en soyons conscients, comme Pierre, Simon, comme l'appelle Jésus de son premier prénom, nous sommes une propriété contestée. Et c'est ce qui se passe pour Pierre et les disciples précisément. Satan vous a réclamé. Un commentateur de ce passage dit que le verbe réclamer est conjugué de telle sorte que c'est comme si l'adversaire de Dieu, c'est ce que veut dire le mot Satan, avait souhaité s'approprier les disciples, les avoir sous son contrôle, et se les réserver en quelque sorte. C'est ce que veut dire le terme. Et alors même que les disciples n'ont jamais été aussi près de leur maître, il s'agit de les en séparer par l'épreuve. Et le seul qui perçoit à ce moment-là la dimension, toute la dimension de cette situation, ce n'est pas Simon, ce n'est pas les disciples, c'est uniquement Jésus qui le perçoit. Et comment les disciples pourraient-ils en être conscients? Et en clair pour eux, ça va être le moment de vérité. On a vu que tout à l'heure que Jésus a mené les disciples à changer de niveau en quittant cette question de qui est le plus grand et qu'il leur donnait une vision d'une réalité future bien plus large, matable, gouverner les tribus d'Israël. Et là aussi, Jésus transporte Pierre dans une nouvelle perspective et lui donne par anticipation les repères nécessaires pour les jours et les semaines qui viennent. Ce n'est pas ici et là que ça se passe uniquement, c'est dans un cosmos dont tu n'as même pas conscience de ce qui est en train de s'y jouer. Simon, Simon, répété deux fois. Simon, c'est à toi que je m'adresse personnellement cette fois, et pas à l'ensemble des disciples. Vous allez être secoués, passés au crible, c'est-à-dire comme on passe au tamis le grain et la paille pour les séparer, secoués pour garder l'essentiel, le grain, et laisser la paille s'envoler. Vous allez passer par un révélateur. Et ça, c'est pas très agréable à entendre, c'est a priori effrayant. Mais, je l'ai dit, Jésus accompagne. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, ce qui comporte une promesse, fortifie tes frères. Alors, pourquoi Jésus a-t-il accompagné Pierre dans ces circonstances? On peut supposer que sa personnalité, tout d'un bloc, était en fait beaucoup plus fragile qu'il n'est paraissait. Sincère, il était, c'est incontestable. Mais sa réponse d'ailleurs jaillit tout de suite. Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Sincère, mais sans doute aussi un peu orgueilleux. Car là, ce n'est pas Luc qui le relate, c'est l'évangile de Marc qui rapporte une autre réaction de Pierre à ce moment-là qui dit « Même si tous trébuchent, ça ne sera pas mon cas ». Pierre sincère sans doute, mais qui surestime un peu ses forces. Et il a besoin d'entendre, là encore pédagogie de Jésus, qu'il va être à la fois celui qui, bien que sincère, va manquer de loyauté à travers son triple reniement, mais aussi celui sur qui Jésus compte pour affermir les autres disciples. Car il va finalement revenir dans un mouvement littéralement de conversion, et le terme qui est employé là, le verbe grec, veut dire se retourner. Quand tu te seras retourné, affermis tes frères. Voilà ce que dit le texte. Il a besoin d'entendre qu'il va être soumis à une forte pression, qui ne peut pas compter sur lui-même, puisque Jésus a intercédé pour lui, mais il a aussi besoin d'entendre qu'il sera un point d'appui ensuite pour les disciples et que Jésus compte sur lui. Jésus ne lui a jamais dit qu'il serait le plus grand, souvenez-vous du début du passage, pour faire écho à cette discussion, mais qu'il avait toute sa place dans le plan de Dieu. Et Jésus n'a pas caché à Pierre que sa loyauté ne serait pas au rendez-vous et qu'il aurait à passer par le tamis un peu pénible de la lâcheté, mais ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Eh bien que nous sommes sans doute appelés à vivre tous les jours une réalité transformée. Tout ce passage de l'évangile de Luc, dont on retrouve les éléments dans les autres évangiles, même s'ils ne sont pas situés exactement à la même place dans le récit, à savoir au moment du repas de la Pâque, ce passage en fait nous dit la nécessité d'être, nous qui sommes tous ici ensemble ce matin, transformés par une vraie compréhension de ce que veut dire suivre le Christ. Rappelons, notre vision est humaine, comment pourrait-il en être autrement ? Nous pouvons par exemple nous demander, sans y faire attention, qui est le plus grand parmi nous, puisque c'est une question que pose sans arrêt notre environnement social, sous diverses formes, et Jésus nous répond, apprenez à servir. Revoyez vos valeurs. Vous avez besoin d'être transformé, si vous vous posez cette question, en termes de positionnement. Ensuite, deuxièmement, comme tous les disciples, nous avons vraiment besoin de comprendre que notre réalité terrestre, c'est une petite traduction de ce qui se joue au sein de la création tout entière, à savoir la contestation permanente de la souveraineté de Dieu par une partie de sa création même. Et que dans ce contexte, même si nous pouvons quotidiennement nous appliquer à vivre au plus près de l'Évangile, ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, quand les circonstances deviennent plus exigeantes, ça peut nous conduire jusqu'à questionner le bien fondé de notre foi, voire être tenté d'abandonner. Et dans ces circonstances, persévérer, ce mot est un des mots les plus difficiles à entendre. Pourtant, si je mets face à face l'abandon et la persévérance, je sais que l'une me transformera, l'autre ne m'apportera rien. La persévérance me transformera, mais l'abandon me laissera exactement dans le même état. Et c'est dans le mouvement que je serai transformé, pas dans l'immobilité de l'abandon et du lâcher. Enfin, comme Pierre, à travers l'épreuve à travers laquelle tôt ou tard nous passons, les uns et les autres, il s'agit pour moi aussi de découvrir ce qui est du grain en moi et ce qui est de la paille, ce qui mérite donc d'être trié. Pour Pierre, on l'a vu, la paille, c'était un peu de l'orgueil qu'il fallait qu'il identifie lui-même. Et le passage a été douloureux par ce tamis, mais nécessaire. Comment, moi, Pierre, je suis capable de l'acheter alors que je croyais être l'homme de tous les courages ? C'est douloureux de s'en rendre compte. Et c'est toute la différence entre connaître les choses de la foi en théorie et expérimenter la foi. L'idée que je me fais de moi-même est-elle juste ? Comment se mélangent le grain et la paille dans tout ça ? Est-ce que je le sais ? Quand ça secoue, quand je passe dans le tamis, eh bien là je vis aussi une transformation, une réalité transformée. Et c'est finalement, et ça sera ma conclusion, ce que Jésus annonce aux disciples en ce moment. Au moment où il prononce ces paroles, que Luc rassemble, votre vision des choses doit être transformée, l'épreuve va vous transformer si vous persévérez, et vous avez besoin d'être transformé. Et ça n'est pas autre chose que ce que dit Paul dans sa lettre à l'église de Rome, dans ce passage bien connu, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, par votre environnement, on pourrait dire, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Sachez changer votre réalité, non pas par vous-même. Vous voyez que ce texte n'est pas traduit sous la forme « transformez-vous vous-même, soyez transformés, faites tout pour être transformés ». Ce qui est dit est beaucoup plus fort, c'est « laissez-vous transformer ». Ne résistez pas aux transformations nécessaires. Voilà, je termine sur ce verset de Paul aux Romains et sur ce passage que j'ai médité cette semaine et qui m'a été véritablement, en tout cas à moi, très très utile. Voilà, je voulais vous le partager ce matin. Amen. Je crois que nous avons... un